Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Et aujourd'hui, je vous propose un entretien. Avec notre autrice du jour, nous allons voyager aux quatre coins du globe, non pas à travers des carnets de voyage, mais comme reporter de guerre ou pour couvrir l'actualité internationale. À travers son livre, nous allons aller avec elle sur le terrain, au-delà de l'écran. Loin de chez moi, c'est le titre de son livre, publié aux éditions Fayard depuis octobre 2024. Loin de chez elle peut-être, mais pas tant aujourd'hui, pour m'avoir donné rendez-vous chez elle pour échanger ensemble autour de son livre. À l'heure où notre monde change de plus en plus rapidement, il faut aussi garder en mémoire que des hommes et des femmes se rendent aux quatre coins du globe, se rendent aux endroits les plus sensibles géopolitiquement parlant pour nous informer et nous faire penser le monde. Bonjour Maryse Burgot.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Moi je vais très bien.
Après vous avoir lu, avec ces nombreux endroits où vous avez pu voyager à travers le monde, je me suis demandé quelle émotion vous traversez lorsque vous revenez ici, chez vous.
Quand je rentre chez moi, je suis une personne heureuse, quelles que soient les choses que j'ai vécues ailleurs. Je m'estime chanceuse d'avoir une famille, un toit sur la tête et de vivre dans un pays qui n'est pas un pays en guerre. Donc je suis généralement très heureuse.
Vous avez fait des études de lettres modernes avant de rentrer au QEJ, donc l'école de journalisme de Strasbourg. Quelle était votre envie de métier à 22 ans avant même d'entrer au QEJ ?
En fait, je rêvais de voyager, mais pas forcément de traverser des frontières, mais de voyager vers d'autres mondes et d'autres gens, un autre milieu que celui dans lequel j'ai grandi. J'avais envie de traverser des frontières, quoi. Et je ne voulais pas spécialement faire de la télévision, j'avais envie d'écrire. Je n'avais pas tout à fait les codes, je ne savais pas que les écoles de journalisme existaient, etc. quand j'étais plus jeune. Donc je n'ai pas forcément fait les études qui étaient tout à fait les bonnes pour réussir les concours. Donc j'ai un peu préparé les concours toute seule et c'est comme ça que j'ai eu le concours de l'école de journalisme de Strasbourg.
Et comment vous avez eu le déclic de passer des lettres modernes au journalisme? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, quand j'étais en lettres, j'étais surveillante dans un lycée, en même temps, pionne, pour payer mes études. Et j'ai rencontré une fille qui était assez géniale et qui préparait les concours des écoles de journalisme. Elle lisait Libé, Le Monde, Le Figaro tous les jours. Elle prenait des notes et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» etc. Et moi, les journaux, je les lisais aussi parce que j'ai beaucoup lu Ouest France quand j'étais dans mon enfance. Et elle me dit, je prépare les concours des écoles de journalisme. Et là, je me suis dit, ah oui, journalisme, c'est ce métier dont je rêvais un peu secrètement, mais je me disais que non, je n'allais pas réussir à avoir les concours, etc. Et je l'ai regardé un peu faire. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer moi aussi. Et donc, j'ai commencé à lire les journaux tous les jours et à m'intéresser de plus en plus à l'actualité. Et j'ai réussi les concours. Voilà, un concours.
Donc beaucoup de détermination, et vous racontez aussi dans votre livre que les professeurs du QEJ au début n'ont pas été très tendres avec vous, notamment en vous faisant des remarques sur votre voix, et pourtant elle est aujourd'hui une signature reconnue par les téléspectateurs du 20h de France 2. Comment vous expliquez ça ?
Parce que j'avais une voix, et j'ai toujours d'ailleurs une voix qui n'est pas très... qui n'est ni radio ni télé d'une certaine manière, qu'elle n'est pas assez... grave, sans doute. Et donc, oui, on m'a dit à l'école de journalisme, toi, tu peux tout faire, mais certainement pas de la télé, certainement pas de la radio. Et comme moi, j'ai le sens du combat, j'ai dit, ah oui, d'accord, eh bien, je vais faire tout le contraire, je vais faire de la radio, je vais faire de la télé. Et aussi, le groupe télé, c'était des journalistes sympas, donc j'avais envie d'être dans ce groupe-là. Et aussi parce que vraiment, je me disais, mais enfin, c'est quoi cette histoire de voix? Et donc, je ne me suis pas arrêtée... à ce premier obstacle. C'est un peu... J'ai écrit cela dans mon livre parce que je veux vraiment dire aux jeunes que c'est pas parce qu'on vous dit « Non, mais toi, tu ne peux pas faire ça » qu'il ne faut pas essayer. Il faut se faire confiance et tenter quand même. On ne réussit pas toujours, mais au moins, on n'a pas le regret de ne pas avoir essayé.
Mmh. Vous venez de Bretagne, vous nous le confiez dans votre livre, issu d'une famille de paysans. On devine, et vous en parlez aussi, le poids d'un transfuge de classe entre le métier de vos parents et le vôtre. Mais justement, par rapport à ce que vous venez de dire, n'est-il pas le fruit d'un long travail plus qu'une trahison sociale ?
Non, c'est sûr que ce n'est pas une trahison sociale, parce que mes parents sont ma fierté. Et ça n'a pas toujours été d'ailleurs, mais maintenant, oui, c'est ma fierté. Avant, je ne le disais pas forcément que j'étais fille d'agriculteur breton, que je n'avais pas évolué dans un univers intellectuel, sans livres, etc. Maintenant, je le dis parce que c'est ma force et que je veux... Et à nouveau, c'est aussi un message. Si vous n'avez pas le sentiment d'être né tout à fait au bon endroit, que ce soit dans une banlieue française défavorisée ou à la campagne, dans un milieu très rural, ne vous arrêtez pas là, parce que c'est possible quand même, parce que moi, j'ai réussi, par exemple, non pas à faire quelque chose d'extraordinaire, je ne prétends pas du tout avoir fait une chose extraordinaire, je prétends avoir réalisé mon rêve, hein, celui qui était d'être journaliste et de traverser les mondes, les frontières, d'aller à la rencontre de gens nouveaux et de mondes nouveaux.
Est-ce que vous êtes déjà mis des barrières, justement, quand vous préparez les concours pour le QS? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, là, ça va peut-être trop loin, il faudrait que je revienne à quelque chose de, pas de plus simple, mais peut-être de plus terre à terre, un métier qui me conviendrait un peu mieux?
Non, mais c'est sûr que j'ai douté, par exemple, que je puisse réussir un concours, parce qu'ils sont très sélectifs, ces concours-là, et c'est le cas encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais je n'ai pas cessé, néanmoins, d'essayer. Malgré les doutes et malgré, après, le quelque chose trappe, la voix par exemple, puisqu'on m'a dit que je n'avais pas une voix qui permettait de faire de la télé, ou aussi, d'une certaine manière, moi j'ai toujours le sentiment que je ne sais rien, que je ne sais pas assez de choses, et je crois que ça a quelque chose quand même à voir avec le milieu dans lequel j'ai grandi, donc je passe mon temps à lire, je pars dans un pays, il faut que je sache tout sur tout, c'est une forme de stress que j'aurai tout le temps, qui ne me quittera jamais, et je vois bien que d'autres personnes n'ont pas cette espèce d'urgence du savoir que moi j'ai tout le temps.
C'est peut-être ce qui vous fait aussi avoir peut-être une longueur d'avance sur d'autres journalistes.
Non, je ne sais pas si j'ai une longueur d'avance. Je trace ma voie, ma route, aussi avec autant de déontologie que je peux, mais je ne prétends pas être en avance sur qui que ce soit.
Au fil de vos reportages et donc des chapitres de votre livre, vous nous parlez aussi de cette vie de famille qui se construit avec et qui grandit plus ou moins en parallèle de votre vie de journaliste. Vous faites de nombreuses passerelles entre ce que vous voyez sur le terrain et vos enfants. Est-ce que ce sont aussi eux qui vous font garder les pieds sur terre ?
Oui, bien sûr. C'est ma chance d'avoir eu des enfants, d'avoir fondé une famille et d'avoir cet endroit où vous êtes là maintenant, qui est chez moi, chez eux, même s'ils sont grands et qu'il y en a un en ce moment qui est à Taïwan, l'autre il est encore ici avec moi, ils étudient tous les deux, mais j'ai cette chance d'avoir un endroit calme et bienveillant dans lequel je rentre quand je pars en reportage. Et oui, ils sont ma chance, mes deux enfants. La raison pour laquelle je fais ce travail aussi. Ils sont à la fois ma fierté et j'ai envie qu'ils soient fiers de leur mère.
Donc il y a cette famille, la vôtre, et puis aussi une deuxième famille, celle quand vous partez en reportage. Vous êtes entouré par une équipe. Est-ce que vous pouvez nous la détailler, cette équipe, quand vous êtes en reportage à l'autre bout du monde ?
Alors moi, je pars toujours avec un JRI, journaliste reporter d'image, un caméraman, mais titulaire de la carte de presse, donc un journaliste comme moi, sauf que lui, il tourne, il fait les images. Avec souvent un monteur dans les zones de guerre, parce que c'est plus confortable, et aussi évidemment un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le pays dans lequel nous allons, qui fait les traductions et qui nous aide en fait à caler, à organiser nos tournages, ce que je souhaite faire, quoi. Et donc voilà, c'est ça une équipe de reportage. La télé, c'est vraiment pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe, c'est une chance. parce qu'on est plusieurs et qu'on à la fois on s'aide et on se conseille. Et quand vous êtes en zone un peu difficile de conflit, c'est forcément un partage. Et c'est forcément, ce sont des décisions qu'on doit prendre ensemble, avancer, reculer, aller faire ce reportage, essayer de voir si oui ou non c'est trop dangereux, est-ce qu'on prend le risque, est-ce qu'on ne le prend pas, c'est des choses que l'on fait à plusieurs, c'est ça le travail d'équipe. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça.
Est-ce qu'elle est toujours la même, cette équipe?
Non, pas toujours. Souvent, les mêmes, parce qu'en fait, ce sont un peu toujours les mêmes à France Télévisions, là où je travaille, ce sont quand même un tout petit peu toujours les mêmes qui vont sur ces terrains-là, donc je les connais bien. Mais non, il faut changer aussi. Puis moi, j'aime partir avec des gens qui n'ont jamais fait des terrains de guerre, notamment des femmes, des jeunes femmes. Je suis pas mal partie avec des jeunes femmes qui n'avaient jamais été sur des zones de conflit, comme Camera Woman, journaliste reporter d'image. Et j'aime bien, parce que j'aime bien l'idée de transmettre aussi. Et je vois très, très vite les gens qui vont devenir des gens en qui on va pouvoir avoir confiance pour aller sur ces terrains-là. Et ça m'intéresse d'avoir ce rôle.
Est-ce qu'en partant avec de nouvelles personnes, est-ce qu'ils apportent eux aussi un regard neuf, voire différent par rapport à ce que vous avez peut-être en tête, suivant le sujet que vous avez, peut-être à un angle précis, et finalement votre GRI vous dit peut-être qu'il y aurait ça à mettre en avant. Est-ce que vous en discutez ensemble avant de préparer le reportage?
Alors, avant de préparer, pas toujours, mais sur le terrain, c'est sûr que c'est un échange. Et c'est sûr que c'est un échange riche de parler avec des jeunes journalistes reporters d'images, par exemple. Parce que c'est vrai que ils ont des idées que moi, j'ai pas forcément. Et puis, ils sont souvent très talentueux et très talentueuses pour les femmes. Et puis, ce sont des regards nouveaux. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas des vieux briscards et des vieux routards du reportage, un peu comme moi, quand même.
Donc, vous en parlez tout à l'heure, c'était les fixeurs, ceux qui vous aident à pouvoir passer les portes. Il y a notamment cet homme, Dmytro Padalka, en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Par exemple, lorsque vous êtes en reportage là-bas, qu'est-ce qu'il a pu vous ouvrir comme porte? C'est une connaissance parfaite du terrain. Qu'est-ce qu'il vous apporte en plus?
Alors, Dima, nous on l'appelle Dima. Dima n'est pas un journaliste, en fait. Je l'ai rencontré au début de la guerre parce que je cherchais quelqu'un avec qui travailler. Et je connaissais un photographe de l'AFP à Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu connais pas quelqu'un qui puisse nous aider dans un premier temps, là? Et donc il m'a dit, ah ben j'ai un pote, Dima, il est dans le tourisme. Il avait une agence de tourisme, mais il est débrouille, il parle un peu anglais, etc. Et donc je l'ai rencontré, et moi je l'ai trouvé formidable. Mais c'est comme ça, les fixeurs, ce ne sont souvent pas des professionnels de la télé. Et c'est quelqu'un qui est capable de comprendre ce dont nous avons besoin. Par exemple, un jour, il me dit « Oh, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais j'ai entendu parler de l'histoire d'une dame à Izium. Lorsque Izium était encore une ville occupée par les Russes, elle a caché pendant plusieurs mois un soldat ukrainien qui avait été torturé par les Russes, etc. » Je dis « Oui, oui, ça m'intéresse. » On est allé, c'était une histoire extraordinaire, formidable, parce que cette dame avait vraiment caché quelqu'un au risque de sa vie, etc. C'était vraiment une femme formidable, une vieille dame formidable. Et bon, ben voilà, c'est ça, un fixeur. Et Dima, il a cette force de trouver comme ça des pépites. Moi, je ne peux pas savoir qu'il y a une dame à Izium qui a caché un soldat pendant 5 mois. Donc, c'est chouette d'avoir des gens comme ça qui peuvent vous donner de très, très bonnes idées et qui font aussi qu'on peut se renouveler, parce que l'Ukraine, ça fait quand même 2 ans et demi maintenant. Nos téléspectateurs sont un peu lassés de cette guerre. Donc, il faut aller les chercher, les sujets et les idées maintenant, et les histoires.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dramatique d'un point de vue du traitement de l'information, de se dire que nous, en tant que téléspectateurs, on peut être lassés, comme vous dites?
Oui, mais ça, c'est une actualité chasse l'autre. Voyez, là, on vient d'assister à la fin du régime de Bachar al-Assad. Et là, nous avons la catastrophe à Mayotte. Et Mayotte chasse la Syrie déjà. Or, ce qui s'est passé en Syrie, c'est énorme. Et puis, ce que va devenir la Syrie aussi, qui sont ces gens qui sont à nouveau au pouvoir maintenant? Quel pays vont-ils construire? C'est très, très important de continuer à travailler sur la Syrie. Mais enfin, aujourd'hui, c'est Mayotte, parce que c'est grave aussi ce qui vient de se passer à Mayotte. Donc, vous voyez, c'est un monde qui est comme cela maintenant. Les actualités vont à une vitesse incroyable et elles chassent l'autre, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous, les journalistes. Il faut qu'on se batte pour se dire attention, il y a Mayotte aujourd'hui, mais n'oublions pas la Syrie, par exemple, et n'oublions pas l'Ukraine, et n'oublions pas Gaza, et n'oublions pas Israël, et enfin, vous voyez.
Donc là, c'est de l'actualité très brûlante qui est présenté par forme de reportage. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire le contre-pied et prendre un temps plus long,
oui,
faire un documentaire, ou un très grand reportage, comme par exemple le Envoyé spécial pour qui vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans un reportage plutôt court, qui est diffusé aux 20h, ou plutôt dans un temps long?
J'ai fait les deux. J'ai fait les deux, j'aime les deux. Mais maintenant, je fais plutôt de l'actualité du hard, enfin du vrai news, quoi. Parce que j'aime beaucoup ça, en fait, et que c'est toujours un challenge d'être à l'heure, d'arriver au bon moment et d'être prêt pour le journal de 20h du soir. Moi, j'aime bien cette forme d'adrénaline du news, j'aime bien, en fait. Mais le magazine, c'est formidable aussi, hein, c'est sûr.
Il y a une anecdote que vous nous partagez, qui est aussi en quatrième de couverture de votre livre, qui peut-être vous fait une piqûre de rappel. Je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Vous êtes donc en Ukraine, poursuivi par des drones russes, et il y a votre fils qui vous appelle, et tout d'un coup, la connexion se fait entre l'Ukraine et Paris, et il vous demande une cuisson du riz. Vous allez donc décrocher, effectivement, vous nous racontez ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous prenez conscience de vous dire « je suis entouré dans une zone de guerre, peut-être que ma place est auprès des miens » Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Non, je me dis, je vois que mon téléphone sonne dans mon gilet pare-balles et je vois que c'est un de mes fils et je ne peux pas ne pas répondre parce que c'est comme ça, où que j'aille, quoi qu'il arrive, je leur réponds toujours. Et oui, on venait d'échapper non pas à des drones russes mais à un tir d'obus de mortier juste à côté de nous en fait, et on était à nouveau visés, donc on était pieds au plancher en train de fuir cette zone. Et dans l'instant où je décroche le téléphone, bien sûr que je ne lui dis à aucun moment que je viens de vivre un moment très compliqué pour nous. Je suis instantanément ici dans la cuisine en train de faire le riz avec lui parce que c'est ma force en fait, ça. C'est ça qui fait que je suis là devant vous, je suis capable, et même c'est pas que je suis capable, c'est que je le fais spontanément, je suis avec lui dans cette cuisine et je ne suis plus sur cette route où je viens d'échapper à la mort.
Vous parlez aussi des années où vous êtes en France en tant qu'attaché de presse pour l'Élysée.
Chargé du suivi de l'Élysée, oui.
Autant pour moi.
Ouais.
Donc c'était sous le quinquennat Hollande. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus stimulant entre le fait que François Hollande prenne la parole un soir et dit « je ne vais pas me représenter » ou alors être envoyé à l'autre bout du monde?
Non, mais le moment où François Hollande prend cette décision, vraiment, pour moi, c'est un moment très fort quand même, parce que je l'ai suivi pendant des années, puisque j'étais chargée du suivi de l'Élysée, et c'est un renoncement énorme que le sien, de dire « je ne me représente pas ». Et non, je me souviens d'être sur ce trottoir-là, devant l'Élysée, et de me dire « waouh ». Le président de la République, donc, ne va pas se représenter. Donc, je ne dis pas que ce n'était pas intéressant, c'était intéressant et passionnant. Mais j'ai eu assez rapidement envie de revenir à ce que j'aime dans ce métier, qui est, entre guillemets, le vrai grand reportage. Parce que le reportage politique, c'est intéressant, mais vous êtes un peu dans un espèce de microcosme, là, qui, moi, ne me convenait peut-être pas totalement. Je dis ça avec... l'admiration que je porte envers les journalistes politiques, c'est pas facile, ce métier-là, c'est très particulier, et donc je ne dis pas que c'est pas... c'est du journalisme, c'est pas ce que j'ai tellement envie de faire.
Vous nous révélez aussi les dessous des préparations de vos reportages dans ce livre. Et je me suis donc plusieurs fois interrogé en vous lisant. En 2003, de vives tensions mènent à une guerre entre Saddam Hussein et George W. Bush, la seconde guerre du Golfe. Vous êtes alors en poste à Bagdad pour France Télévisions et vous écrivez que vous voyez la tension monter au fil des jours. Comment vous arrivez à la percevoir, cette tension? Est-ce que ça se passe dans les rues de la ville? Ou peut-être ce que vous entendez? Comment ça se passe?
Ouais, c'est dans les rues de la ville parce que Saddam Hussein avait demandé à la population de se préparer. Vous imaginez, donc les gens achetaient des sacs de sable pour mettre devant leur maison pour se protéger. Ils achetaient des lampes à huile parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait plus d'électricité. Il y avait une sorte de préparation comme ça, un peu inouïe, mais en même temps sans issue, parce que évidemment que ceux qui allaient s'attaquer au régime de Saddam Hussein étaient beaucoup plus forts que le régime lui-même. Donc forcément, il allait tomber. Mais il y avait une forme de... Bon, c'était une dictature, la dictature de Saddam Hussein, donc les gens faisaient exactement ce qu'ils demandaient de faire. Et oui, vous assistez à la mue d'une population qui se dit « bon, ok, donc ça va être la guerre dans les rues de Bagdad ». Et une sorte aussi d'illusion, c'est-à-dire tout le monde savait au fond qu'ils allaient perdre, que ce n'était pas possible de lutter contre la coalition occidentale. Mais en même temps, chacun fait ce que Saddam Hussein demande, parce que c'est une dictature. Donc c'était fort d'assister à la préparation de la population.
Toujours au chapitre États-Unis, c'était un grand moment de votre vie quand vous étiez aussi correspondante de France 2 aux USA. Au fil de vos reportages, vous voyez comment fonctionne la première puissance mondiale, que ce soit à travers son système politique ou comme son système de santé. Et c'est aussi là que vous vous dites qu'on ne devrait pas forcément envier les États-Unis par rapport à ce qu'ils vivent.
Ouais, le système de santé aux États-Unis, incroyable, parce que vous avez à la fois des gens, des millions de gens, même si l'Obamacare a changé un peu les choses, qui vivent sans assurance santé. Je suis par exemple allée dans un centre où on arrachait les dents des gens par milliers, quoi. Des milliers de gens dans un immense stade, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller chez le dentiste, donc on fait ça à la chaîne, c'est une ONG qui organisait ça, et c'est vraiment l'Amérique des très pauvres, quoi, l'Amérique qui ne peut pas s'assurer. Et à côté de ça, vous avez des gens qui, à San Francisco, sont capables de choisir le sexe de leur bébé pour 60 000 euros en allant dans des cliniques spécialisées. C'est ça, les États-Unis. Et en France, quand même, nous avons cette chance d'avoir un système de santé qui nous permet d'être soignés, même si, bien sûr, il est perfectible.
Quel regard vous portez avec ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche?
Incroyable. Encore une fois, comme les sondeurs se sont trompés, c'est déjà la première chose, puisqu'on disait, on a passé notre temps à dire que ce serait très serré, que c'était difficile de dire qui allait l'emporter, et en fait, ça n'était pas serré du tout. Donc déjà, première chose, les sondeurs se sont trompés, et du coup, comme nous, les journalistes, on s'appuie sur les sondeurs quand même. Nous sommes trompés aussi. Et moi, ça me parle beaucoup, cette élection de Donald Trump, et sur les ressorts, comment est-ce qu'il a gagné encore des voix, j'essaie de le ramener à la France, comment cette forme de populisme-là qu'il incarne, comment il gagne les cœurs, quoi, comment a-t-il réussi cela? On doit, nous, s'interroger... Comment le fait de dire les choses comme il les dit, c'est-à-dire sans aucun filtre, comment cela, ça plaît beaucoup finalement. Quelles leçons à nouveau combien nous devons nous y réfléchir pour la France?
Donc c'est pour ça aussi qu'on a des médias qui nous entourent. Mmh. Vous évoquez dans votre livre le journal Ouest France, très présent dans votre famille, on en a parlé. C'est le premier journal et média français à avoir quitté X, anciennement Twitter, racheté par le milliardaire Elon Musk. Que pensez-vous des réseaux sociaux qui se font aujourd'hui le relais de l'information?
Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille quitter Twitter, par exemple, enfin X. Moi, j'y suis, par exemple. Je ne parle pas au nom de ma chaîne, hein, parce que c'est France Télévisions réfléchit à ces questions, puisque tous les médias y réfléchissent. Moi, pour l'instant, j'y reste, parce que je pense qu'il faut quand même... c'est un moyen aussi de donner notre version des choses et de l'actualité. Moi, j'essaie de mettre sur X, par exemple, mes reportages. Parce que nous avons à France Télévisions un journal de 20 heures dont les téléspectateurs vieillissent. Notre moyenne d'âge, elle est quand même assez haute. Mmh. Donc, on n'est pas forcément tellement regardé par les jeunes. Donc, il faut qu'on aille les chercher, les jeunes. Or, pour aller les trouver, il faut être sur les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille les déserter, vous voyez. Je ne pense pas.
Plutôt intensifier sa présence
il faut,
en proposant un contenu de qualité.
Pour proposer un autre contenu que certains autres qui ne sont pas forcément fiables. Parce que nous, on essaie de faire du vrai journalisme. D'investigation et aussi on essaie, moi mon travail c'est d'aller quelque part, de raconter ce qui s'y passe, de donner les faits et de ne pas donner mon opinion, mon avis n'intéresse personne, et de faire que les gens puissent se faire leur propre opinion à partir des faits que je leur donne, vous voyez. Et je pense que c'est important d'être sur les réseaux et de mettre nos sujets sur les réseaux pour ne pas laisser la voie libre à ceux qui ne font pas du vrai journalisme, et il y en a beaucoup.
Encore récemment, vous étiez en Israël pour couvrir et nous informer sur cette situation qui embrase tout le Proche-Orient. Quel est votre sas de décompression quand vous revenez à Paris ?
Mais moi, je n'ai pas envie de répondre à ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas nous qui souffrons. Ce ne sont pas nous les victimes de tout ça. Moi, je suis journaliste. Je choisis d'aller sur ces terrains. Personne ne me met un pistolet sur la tempe en me disant « t'y vas, j'y vais » parce que je suis d'accord pour y aller. Donc, les gens qui souffrent sont les civils des pays dans lesquels nous allons, les soldats qui sont tués, par exemple, en Ukraine, les jeunes gens de votre âge qui sont amputés. Voilà où est la souffrance. Moi, quand je rentre, j'ai un toit sur la tête, des enfants merveilleux, un pays qui n'est pas en guerre. Donc, j'ai construit une forme de sas de décompression qui est assez simple et qui est le mien, qui est voilà, je suis là dans ma maison, j'adore jardiner, je jardine. J'ai tellement de chance de vivre ici que je me permets pas de me plaindre, vous voyez.
C'est pas forcément de se plaindre, mais plus avoir peut-être un recul par rapport à ce que vous pouvez voir, justement. Parce que assister à toutes ces atrocités, justement, vous parlez de ma génération qui est là-bas et qui subit des mutilations. Ouais. Justement, c'est le fait de voir ces choses-là qu'on ne verrait pas, nous, au quotidien.
Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas le dire autrement, je ne me permets pas d'en souffrir, vous voyez, parce que sinon, ce serait une forme de faiblesse. Si c'est trop dur pour moi, je n'y vais pas. Et j'ai un peu de mal avec les journalistes qui se plaignent, voyez, parce que nous ne sommes pas obligés, quoi. Personne ne m'oblige. Donc, j'aime ce métier passionnément. J'ai l'impression je tente de le faire bien. Mais quand je rentre, j'ai l'élégance d'être heureuse d'une certaine manière, parce que moi, je vis dans un pays en paix.
Ça vous est déjà arrivé, justement, de dire à votre rédaction que vous n'irez pas sur un terrain ?
Non, ça ne m'arrive pas, non. Là, je ne suis pas allée en Syrie parce que j'avais pris des engagements, trop d'engagements extérieurs, liés à mon livre d'ailleurs, donc je ne pouvais pas planter tout le monde, ça m'est extrêmement rarement arrivé.
Votre consoeur, Léa Salamé, a réalisé une série d'entretiens avec des femmes, deux saisons durant sur France Inter. Elle rencontrait des femmes politiques, des médecins, des écrivains, des actrices. Chaque portrait nous présentait une femme puissante. Est-ce que vous vous considérez, vous, comme une femme puissante ?
Alors, ça serait tellement prétentieux de répondre oui, donc non. Je ne vais pas du tout vous répondre que je me considère comme une femme puissante. Je me vois comme quelqu'un qui a une certaine constance. Je fais ce métier depuis longtemps, je l'aime beaucoup, je le fais avec beaucoup de sincérité, je ne triche pas, mais je ne suis pas une femme puissante, je suis une femme je ne sais pas comment vous répondre, ce serait tellement prétentieux, je ne peux pas répondre.
On parlait au début de l'entretien de votre parcours universitaire avec ce cursus de lettres modernes, je vois que vous avez une bibliothèque assez fournie.
Oui.
Avec le métier de grand reporter, la lecture vous a-t-elle quitté ?
Jamais. La lecture, c'est très important pour moi. Alors, quand j'ai écrit ce livre, et donc ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai pu moins lire. Mais moi, je suis quelqu'un qui lit et j'aime lire tout, y compris les romans. Là, je viens de finir, par exemple, le livre de Sandrine Collette qui s'appelle
Madeleine
Madeleine Allot.
Amour.
J'ai adoré ce livre. Pour moi, lire, c'est très, très, très important. Et surtout, ne pas lire que de l'actu, quoi. Ne pas lire que Le Monde et Libé. Lire aussi des romans, c'est très important pour moi. Et je m'oblige moi-même à lire. C'est-à-dire, même si je suis épuisée, je lis quand même quelques pages. Et j'ai toujours un ou deux livres en cours.
Donc, Madeleine avant l'aube, quel est le prochain livre que vous allez ouvrir?
En fait, je viens de finir Madeleine avant l'aube et j'ai tellement aimé que je lis un livre qu'elle avait écrit auparavant, très court, qu'on m'a offert, qui s'appelle On était des loups aussi, même autrice.
Loin de chez moi, c'est le titre de votre récit paru aux éditions Fayard en octobre 2024. Merci Maryse Burgot.
Avec plaisir, merci à vous d'être venu jusque chez moi.
Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cet entretien avec vous. Je rappelle que votre livre est toujours disponible en librairie indépendante. Merci pour cet entretien et merci encore de nous tenir informés de tout ce qui se passe à travers le monde, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut construire, nous, la nouvelle génération. On parle souvent de démocratie et je crois que les journalistes sont des remparts pour la démocratie, donc merci de continuer à faire ce métier, sincèrement. Amis auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour ouvrir ensemble un nouveau livre. D'ici là, je vous souhaite d'avoir de belles lectures.